Radio Okapi.
Madame, messieurs, bonsoir. Voici pour commencer l'essentiel de l'actualité. En Nord Kivu, les combats se sont poursuivis encore ce dimanche à Jomba et Bouiza, dans les territoires de Rutshuru, entre les FARDC et le M23. Le M23 demande la cessation des hostilités pour, selon lui, éviter la dégradation de la situation humanitaire. À suivre également dans ce journal, la sensibilisation des leaders de la société civile de Kisangani sur la décentralisation et les élections locales. Un séminaire à ces sujets vient d'être organisé par l'Institut des stratégies pour le développement durable. Et puis nous nous rendrons dans certains postes de police de Kinshasa où des véhicules de particuliers traînent encore alors que l'autorité urbaine interdit le parking dans ces endroits. Des détonations d'armes lourdes et légères entendues encore ce dimanche et jusque ce soir dans certaines collines de groupement de Jomba et Bouiza dans le Nord Kivu. Les FARDC affrontent toujours les éléments du M23 qui se trouvent dans cette zone du territoire de Rutshuru. Selon des sources à Bouiza, les mouvements de population se poursuivent vers Rutshuru Centre et Kalegera. Pendant ce temps, le M23 appelle à un cessez-le-feu pour préserver, selon son communiqué, la dégradation de la situation humanitaire de population. De précision avec Ivaris Mahamba.
L'appel au cessez-le-feu est rendu public dans un communiqué il y a 4 jours. Il nous est parvenu hier. Dans ce document, le M23 appelle le gouvernement congolais à assumer toutes les responsabilités en cas de poursuite des hostilités. Pour ces mouvements, les combats sont responsables des morts d'hommes et d'importants mouvements de population. Le M23 rappelle que la défection de certains éléments des rangs des FARDC et la création de ces mouvements se justifie par le non-respect des accords entre l'être CNDP et les autorités du pays. La coordination de ces mouvements rebelles s'est dit en fait ouverte au pourparlers en vue d'une issue pacifique à la crise qui secoue la province du Nord Kivu. Dans le même communiqué, le M23 précise que c'est la seule voie qui pourra permettre à des milliers de déplacés et réfugiés de regagner leur demeure. Il invite également la MONUSCO à cesser avec son appui au FARDC, car selon les mêmes communiqués, c'est seulement par les dialogues que le pays peut sortir du bourbier. Pour l'instant, pas de réaction côté FARDC. Rappelons que ces combats entre les FARDC et les éléments du M23 remontent à un peu plus de 2 semaines. Ils ont provoqué d'importants mouvements des populations dans la région. Rutshuru, Evariste Mahamba de la radio communautaire Ushirika pour la radio Okapi.
Et puis au moins 22 personnes ont été tuées dans différentes attaques armées dans les territoires de Lubero depuis le début de cette année. La société civile de ces territoires qui donne ce bilan note également dans la même période plusieurs cas de violences sexuelles sur les femmes, d'incidents, incendies de maisons, de vols et pillages. Ces atrocités ont été enregistrées à Kanyabayonga, Kaina, Karumba, Lofu, Ali Bongo et au sud du territoire de Lubero. Le président de la société civile de Lubero indique que les attaques ont eu lieu au cours des opérations de déploiement. Le chef Maliki Dogo est au téléphone de Jungala.
Toutes les positions militaires dans la zone étaient dégarnies parce que les militaires étaient déployés à Masisi, à Rutshuru et à Walikale pour mener la guerre là-bas. Alors, aussitôt que les militaires sont partis vers ces zones à guerre, les forces négatives ont directement occupé ces positions militaires. Alors, ces forces négatives posent beaucoup d'exactions sur la population du territoire. C'est la police nationale congolaise qui doit assurer la sécurité intérieure. Mais malheureusement, pour le territoire de Lubero, on voit qu'ils sont très peu nombreux. Ça, c'est compte tenu de l'effectif. Ensuite, il y a insuffisance d'encadrement et puis il y a insuffisance d'équipement. Troisièmement, il y a l'impunité qui prend de plus en plus de l'ampleur. Des fois, autant que tirent les assaillants ou autant que tirent les civils armés, mais le Zénat, il ne s'est pas puni.
Joseph Maliki Dogo, président de la société civile du territoire de Lubero. Au Nord Katanga, 70 éléments de la police nationale congolaise, commissariat de Manono, se plaignent de n'avoir pas reçu leur salaire depuis 2 ans, alors qu'ils affirment être détenteurs chacun d'un numéro matricule. Tout en admettant la réalité du problème, l'inspection de la police nationale congolaise Tanganyika émet toutefois de réserves sur les chiffres avancés par le policier impayé. Le point avec Expedi Mwamba Mubi.
Ils disent être au nombre de 72 les policiers de Manono
qui réclament leurs salaires impayés depuis 2 ans. Ils affirment être passés au contrôle au mois de février 2010 et que, à la suite de ce contrôle, ils ont obtenu un numéro matricule. Toujours d'après ces policiers, leurs collègues, 120 au total, contrôlés à la même période, eux touchent leur salaire. Du coup, les policiers impayés parlent de discrimination. De son côté, l'inspection de la PNC Tanganyika reconnaît le problème, et cela indiquant, après avoir dépêché une mission d'enquête à Manono, cette mission dit avoir dénombré 25 policiers impayés. Pour l'inspection de la PNC Tanganyika, la solution à ce problème ne peut venir que de la hiérarchie à Kinshasa. Toutefois, le numéro 1 de la PNC Tanganyika se dit prêt à envoyer une nouvelle mission sur le lieu pour d'autres vérifications. Kalemi, Expedi Mwambamubi, Radio Okapi.
Clôture hier samedi à Kisangani du séminaire atelier sur la décentralisation et les élections locales. Séminaire de 3 jours organisé par l'ONG Institut des stratégies pour le développement durable ISTD. Objectif, outiller les leaders de la société civile pour la consolidation de la démocratie et l'état de droit en RDC. Selon l'organisateur, les processus d'instauration de nouvel ordre politique tel que décrit dans la constitution de la RDC, dont le choix du gouvernant locaux n'a jamais été respecté. C'est si faute de l'appropriation de ces processus par le peuple. Le professeur Ibanda Matungila, directeur de l'ISDD, au micro d'Asselm Massoua.
Le peuple congolais a adopté une nouvelle constitution depuis 2005. La perspective de cette constitution, c'est installer ou instaurer un nouvel ordre politique. Ce processus n'a pas atteint tout ce qui était prévu, dans ce sens que les institutions locales et urbaines n'ont pas été mises en place. Ce processus qui était prévu au niveau légal ne peut pas réussir sans appropriation de la population. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est sensibiliser les communautés de base pour que la décentralisation, considéré comme un processus de la réforme de l'État et de la démocratisation de l'État, ne soit pas une affaire des dirigeants, que ce soit une affaire où il y a un partenariat entre les acteurs étatiques qui mettent en place le processus et les communautés de base, et que les communautés de base et la société civile jouent leur rôle de sentinelle dans ce processus, que la population soit en mesure d'abord à s'approprier ce que la Constitution lui reconnaît, et puis, en deuxième lieu, de réclamer son droit, et surtout de contrôler que ce qui a été prévu dans la Constitution, c'est ça qui se met en place.
Le code minier congolais nécessite une révision pour la simple raison qu'il contient quelques lacunes. C'est pour identifier ces lacunes que la Commission épiscopale pour les ressources naturelles, Observatoire de Bukavu, a organisé un atelier le vendredi dernier. À part l'identification de lacunes contenues dans les codes miniers code minier actuel, les acteurs de la société civile en collaboration avec la commission de saisine justice et paix, ils sont également penchés sur les stratégies et les actions d'un plaidoyer pour obtenir la révision du code minier en vigueur. Florence Fouraya, point focal de la commission de saisine du Sud Kivu sur les ressources naturelles, explique au micro de Jean Kassami.
Les réformes initiées en République démocratique du Congo avec l'appui des structures internationales ont conduit notre gouvernement à publier des textes de loi, notamment le code minier. Et c'est dans ce cadre donc que nous avons invité les organisations de la société civile pour qu'ils réfléchissent avec nous et voir dans quelle mesure apporter les modifications à ces codes miniers. Nous cherchons à voir dans quelle mesure appuyer certaines mesures qui existaient déjà d'un côté et de l'autre côté, voir comment amener d'autres mesures supplémentaires à ce que les droits de population locale puissent effectivement être respectés par les industriels et plusieurs autres intervenants dans les secteurs de ressources naturelles.
En dépit de la décision des autorités de la ville, province de Kinshasa, de ne plus garer les véhicules dans les commissariats et maisons communales, beaucoup de voitures traînent encore dans ces espaces. Constat fait par Radio Capi ce dimanche. De sources policières ont indiqué que certains de ces véhicules sont en panne. Reportage de Paul Matendo.
Dans beaucoup de commissariats de la ville province de Kinshasa que nous avons visité, l'on trouve encore des voitures qui y sont garées. Si certaines peuvent encore rouler, certaines d'autres par contre sont en panne. Dans les communes de Lingwala et Barumbu par exemple, des sources policières ont indiqué que les propriétaires des véhicules qui y traînent encore sont introuvables. Par conséquent, la police ne peut pas prendre le risque de les déplacer. Dans la commune de Bandalungwa, c'est l'esplanade de la maison communale qui s'est transformée en parking pour garer les voitures des habitants de cette partie de la ville. Plus de 100 véhicules y sont parqués billets par jour. Chaque propriétaire est obligé d'acheter un jeton signé par la commune, moyennant 1000 francs congolais. Selon le comité de gestion de ces parkings, la police perçoit un pourcentage pour la surveillance. Toujours à Bandalungwa, un autre commissariat a indiqué que ce sont les propriétaires des véhicules plutôt qui contactent la police. Les propriétaires, quant à eux, se disent surpris par cette décision d'interdire les parkings dans ces espaces.
Hier matin, j'ai récupéré ma voiture du parking de la maison communale. À la fin de la journée, lorsque je voulais garer la voiture, j'ai constaté que l'entrée était barricadée. Ils devaient nous prévenir dès le matin parce que nous sommes leurs clients et nous payons 1000 francs congolais par jour.
Du côté des autorités provinciales, cette pratique est strictement interdite et elle rentre dans le contexte d'assainir la ville-province de Kinshasa.
Paul Matinde, nous allons terminer ce journal par cette nouvelle de notre confrère Sadala Chabani qui a été inhumé ce dimanche à 15h, heure de Kinshasa, au cimetière de Menseke Fouti. Auparavant, un hommage lui a été rendu par la MONUSCO, sa famille, ainsi que ses amis et connaissances. Rappelons que notre confrère Sadala Chabani est décédé le 15 mai 2012 à Kinshasa, des suites d'une maladie. Il avait été recruté depuis 2002 à Kindu comme journaliste à la Radio Okapi. C'est la fin de ce journal qui a été coordonné par Martin Seboudiangwe sous les techniques de Alain Goy.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.